Je vous annonce une bonne nouvelle. On termine aujourd'hui la série de prédications sur 1 Pierre, sur la première lettre de Pierre. Une série que nous avions commencée il y a un an, jour pour jour, c'était le culte, lors du culte de rentrée de septembre 2016. Et nous avions commencé, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais, mais par le chapitre 2, en septembre 2016, où Pierre nous parlait, nous invitait à devenir ou à être des pierres vivantes pour construire son église, avec un souvenir de septembre 2016 qui est là, à ma gauche, ce bocal avec des pierres qui ont l'air mortes mais qui sont vivantes puisque vous avez inscrit votre nom dessus. D'ailleurs, il reste quelques pierres, vierges de tout nom, vous pourrez écrire votre nom dessus si vous voulez participer à l'édification de l'église en tant que pierre vivante. Mais je me disais aussi que ces pierres vivantes, elles doivent le rester vivantes. Sinon, passez-moi l'expression, sinon... c'est mort. Et justement, au chapitre 5, au dernier chapitre de la lettre, et avant de prendre congé, Pierre va nous laisser quelques recommandations pour nous permettre de nous maintenir en vie en tant que pierre vivante, nous permettre de survivre dans ce monde hostile, un genre de kit de survie. Avant de terminer la lettre, avant la rentrée, n'oubliez pas le kit de survie, de survival kit, 1 Pierre 5, versets 6 à 10. Vous savez, ces valises ou ces sacs que l'on prend pour aller en brousse ou en montagne, pour pouvoir survivre quelques jours en cas de pépin, avec le couteau suisse, la boîte d'allumettes, le sifflet, la couverture de survie, etc. Et Pierre, je vous jure que Pierre, dans son épître, nous donne quelques éléments à mettre dans notre sac, dans notre kit de survie. Nous, les pèlerins que nous sommes sur la terre, comme il le dit dans son épître, nous, ces résidents temporaires, un kit à prendre si on veut survivre dans un environnement qui nous est hostile. Un kit de survie qui pourrait nous être utile aussi dans cette rentrée 2017-2018, dont notre ami allemand Dirk nous a parlé abondamment, une rentrée qui pourrait apparaître pour certains comme une montagne. Et Pierre nous emmène en randonnée. Et le premier élément de ce kit de survie, on pourrait le comparer à une corde. Il s'agit de la confiance. Parce que la corde symbolise bien la confiance. On a confiance en la solidité de la corde. Elle est petite, elle est fine celle-là, mais je vous dis qu'elle est, elle est bien solide. Et on fait aussi confiance à celui qui est à l'autre bout de la corde. Premier élément dans le kit de survie, c'est la confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Il est intéressant de noter que dans l'original, le mot « souci » vient d'une racine qui veut dire « diviser ». Séparés. Et pour une fois, l'étymologie nous est utile et nous rappelle que si nous n'en prenons pas garde, les soucis vont finir par nous séparer de Dieu. Le troisième terrain de la parabole du semeur en Matthieu 13 nous parle aussi des soucis du monde. C'est le même mot que dans 1 Pierre. Les soucis du monde qui viennent étouffer la plante et qui la tuent lentement mais sûrement par asphyxie. Et on en fait l'expérience tous les jours. Les soucis ont une puissance d'étouffement assez phénoménale. Et on est bien là dans une question de survie. La confiance et l'humilité. Nous avons laissé à la lecture, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, le verset 6 qui nous parlait d'humilité dont nous avons parlé dimanche dernier. Parce qu'en fait, les deux versets sont liés et on devrait lire « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu » ou « Placez-vous humblement sous la puissante main de Dieu, vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. » Il y a un participe présent, « vous déchargeant » qui a un rapport avec le verbe principal, c'est « s'humilier » ou « se placer humblement sous la puissante main de Dieu ». Et donc, on peut dire que se décharger sur Dieu de tous ses soucis, c'est une marque d'humilité. C'est une expression de cette humilité. On se place humblement sous sa main, c'est-à-dire qu'on reconnaît son action puissante dans le monde. On reconnaît aussi ses limites, sa finitude. Nous sommes des êtres finis, parfois mal finis, mais finis. Et faire confiance, c'est faire confiance à celui qui est infini de puissance, d'amour et de sagesse. Et se décharger sur lui de tous ses soucis, c'est appliquer l'humilité à sa propre situation. C'est démontrer qu'on adhère pleinement au fait que Dieu est le maître, non seulement du monde, c'est parfois plus facile de le reconnaître, mais aussi maître de mon existence individuelle, et c'est souvent plus difficile à l'admettre. Parce qu'on a tendance à ne faire confiance qu'à soi pour la résolution de ses problèmes et pour l'issue de ses soucis. Oui, se décharger sur lui de tous ses soucis est un geste d'humilité parce que tout simplement, je lâche prise par rapport à ces soucis qui m'inquiètent et qui me pèsent et qui m'étouffent, oui, mais qui, en même temps, me sécurisent ou qui me donnent l'impression de contrôler ma vie. Se décharger sur Dieu de tous ses soucis, c'est un signe d'humilité. Et à l'inverse, on pourrait se demander si les grands anxieux, et il y en a quelques-uns ici, ne sont pas en même temps de grands orgueilleux. Des orgueilleux qui ne veulent pas faire confiance en Dieu pour leurs propres affaires et qui ne veulent pas, en fait, lâcher les rênes de leur vie. De cet orgueil où on refuse de faire confiance à quelqu'un d'autre, fût-il Dieu. Alors, je ne dis pas que ça s'applique à tout ou totalement à tous les anxieux. Il y a toutes sortes d'anxiétés. On ne va pas tirer sur l'ambulance où je suis. Mais l'idée quand même que l'orgueil est lié un petit peu à l'anxiété est intéressante et forme une sorte d'appel à tous les anxieux du monde. Laisse tomber ta fierté mal placée de vouloir diriger ta vie, de garder les rênes sur la vie, de vouloir tout gérer toi-même. Décharge-toi sur Dieu. Et vous vous souvenez peut-être, c'est dimanche dernier, que Pierre utilisait le verbe « se revêtir » pour parler de l'humilité. Il s'agissait de se revêtir d'humilité ou s'habiller d'humilité. Et l'image continue puisque le mot, le verbe « décharger » dans l'original, encore une fois, peut vouloir dire aussi « se débarrasser » comme un manteau que l'on quitte ou même que l'on jette sur le banc. Il y aurait une sorte d'échange de manteau, se débarrasser du manteau des soucis pour revêtir celui de l'humilité, ou l'inverse, revêtir le manteau de l'humilité pour pouvoir se débarrasser de celui des soucis et les laisser au vestiaire en quelque sorte. Et je pense que cette image de changement de manteau pourrait nous aider, nous les anxieux, peu ou prou, à vivre cette confiance. Mais tout cela n'aurait pas de sens, cette confiance n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas cette promesse du soin de Dieu, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, prend soin de vous. Et ce soin de Dieu pour les hommes, pour chaque homme, est un trait distinctif de la foi chrétienne. Dans toutes sortes de religions et de cultes, tous les efforts des adeptes sont faits pour éveiller l'intérêt de la divinité, par des prières, des sacrifices et des cérémonies en tout genre. On essaye d'éveiller l'intérêt de la divinité. Et le résultat est plutôt incertain. Qui peut dire que cette divinité capricieuse va prendre soin de moi, va s'intéresser à moi? Mais dans la foi chrétienne, le soin de Dieu, il est là, il n'est pas à conquérir car il fait partie de la personnalité de Dieu. Sa bonté, sa bienveillance. Dieu prend soin de nous. Le Dieu de la Bible, révélé en Jésus-Christ, prend soin de la personne humaine et notre vie peut se baser sur cette confiance que Dieu prend soin de moi et de toi, et de chacun d'entre nous en particulier. On a parlé de son infinie bonté, amour, bienveillance, de son infinitude. Et donc il peut s'occuper de chacun d'entre nous dans notre finitude. Mais la question se pose, ou la question qui se pose est de savoir si cette vérité de la foi, que Dieu prend soin de moi, résiste à la réalité de la vie. Est-ce que Dieu prend soin de moi quand le médecin annonce un cancer? Est-ce que Dieu prend soin véritablement de moi quand un être proche disparaît trop tôt? Est-ce que Dieu prend soin de moi quand je cherche un travail depuis 2 ans sans succès? Il n'y a pas une réponse facile à ces questions, mais je risque humblement une idée, en quelques mots. 3 petits mots peut-être à ajouter à la phrase « Dieu prend soin de moi ». Et ces 3 petits mots, c'est « à la fin » ou « finalement ». Et dans les 2 sens de ce mot « finalement », « finalement » ou « rétroactivement ». Quand on revient sur les événements qui ont été difficiles, on peut dire « oui, Dieu a pris soin de moi sans que je m'en aperçoive, mais in fine, finalement, oui, Dieu a pris soin de moi à travers ces épreuves, ces événements difficiles ». Et c'est le témoignage de nombreuses personnes ici qui sont passées par des moments extrêmement difficiles, terribles même. Oui, finalement, quand je regarde en arrière, Dieu a pris soin de moi. Il me portait. Mais finalement, peut aussi vouloir dire à la fin des temps. Finalement, à la fin de mon temps ici, ici-bas, Dieu prend soin de moi à la fin. Et là, on pointe vers l'espérance du salut où il me prendra avec lui dans un endroit, cette nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, où il y aura une prise en soin totale. Oui, in fine, dans les deux sens de l'expression, rétroactivement et finalement, Dieu prend soin de moi à la fin. Mais pour que cette confiance puisse se concrétiser dans la vie, il faut pouvoir la renouveler et faire ce changement de manteau dont on a parlé tout à l'heure. Et David l'a fait alors qu'il vivait un moment critique de sa vie. Dans 1 Samuel 30, il y a cette phrase, « David était dans une situation très angoissante », nous dit le narrateur. Et c'est un peu un euphémisme, parce que David, il n'est pas seulement dans une situation un peu angoissante, il est en mode survie là. La troupe des 400 mercenaires mécontents qu'il a autour de lui s'est retournée contre lui pour de sombres histoires de butin, etc. Et ils veulent le lapider. Très critique. Alors qu'est-ce qu'il fait, David ? Eh bien, c'est assez incroyable. David va seulement puiser de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait, mais j'imagine qu'il a peut-être pris sa guitare et chanté quelques psaumes qu'il venait de composer. Il a certainement prié. Il a médité, il a repensé aux actes de Dieu dans sa vie, puis il a dit à Dieu, « Ok, tu m'as choisi parmi tous mes frères. J'étais le dernier, j'étais au champ, tu m'as choisi. Tu m'as donné l'onction pour être roi. Tu m'as aidé à vaincre Goliath. Et si je suis ici, c'est grâce à toi, c'est à cause de toi, Seigneur, que je suis ici, entouré de ces mercenaires qui en veulent à ma vie. Mais je sais que tu es puissant et que tu as promis de prendre soin de moi. Alors mes soucis avec cette troupe qui veulent me lyncher, je te les remets. Mon avenir est dans ta sûre main, dit David. Mon avenir immédiat et mon avenir éternel est dans ta sûre main. Que peuvent me faire les hommes ? Oui, David, il a ce moment de face-à-face avec Dieu. Et au sortir de ce moment de face-à-face avec Dieu, de ce renouvellement de sa foi et de sa confiance, les deux veulent dire la même chose, hein, foi et confiance, David a pu puiser de nouvelles forces. Alors, je souhaite à personne de vivre des moments pré-lapidage comme David, mais j'imagine qu'on a besoin parfois de ces moments critiques ou un peu critiques, de ces moments d'angoisse, d'incertitude, de déception, pour nous humilier sous la puissante main de Dieu et de renouveler en lui notre confiance. On en a besoin, j'en ai besoin. Je ne l'espère pas, mais j'ai besoin de ces moments critiques pour renouveler ma confiance. Le deuxième élément du kit peut être comparé à des jumelles. Pour la vigilance, pour voir plus loin, soyez sobre, faites preuve de modération ou soyez sobre et soyez vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. C'est le verset 8. Alors on a l'impression que Pierre se répète un peu parce que c'est la troisième fois qu'il en appelle à la sobriété et à la vigilance dans son épître. Mais cette fois, la menace est personnalisée. Il s'agit de l'adversaire, du diable, qui ressemble à un lion rugissant prêt à dévorer celui qui lui tombe sous la dent. Et on a l'impression que quand Pierre parle du diable, il sait de quoi il parle, même si le diable ou l'adversaire ressemblait pour lui plutôt à un coq qui chante trois fois. L'adversaire a tourné autour de Pierre et Jésus va même prier pour Pierre pour que Satan ne le passe pas au crible. Pierre sait de quoi il parle quand il parle de cet adversaire et il en appelle à la vigilance. La vigilance contre une certaine naïveté humaine qui consisterait à dire que tout baigne, que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, qu'il n'y a pas de mal, circuler, rien à voir, surtout pas de diable. Le diable n'est pas à voir dans notre monde, bien sûr. Il y a Goethe qui disait « Les gens ignorent la présence du diable même quand il les a saisis à la gorge. » Et à mon avis, Goethe a lu 1 Pierre 5, verset 8, et Goethe a bien senti le problème avec le diable. Le problème des hommes avec le diable, c'est de refuser de reconnaître sa présence, et cela malgré l'évidence, malgré sa saisie à la gorge. La vigilance commence par reconnaître la présence de cette personne qui s'active autour de nous et qui cherche à détruire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit par ailleurs Paul aux Éphésiens, on l'a lu tout à l'heure, mais contre les puissances mauvaises. Alors il ne s'agit pas de le voir partout, le diable, de tout diaboliser, de vouloir tout exorciser à coups de crucifix. Il ne s'agit pas de cela, mais simplement prendre conscience de son action, pas dans les nuages, dans une sorte de combat d'autorité céleste, comme on peut le voir dans les romans chrétiens de science-fiction, et oui, ça existe, mais il s'agit de prendre conscience de son action dans ma vie, sur ma personne. Cette personne qu'il cherche à dévorer, parce que la personne qu'il cherche à dévorer, c'est bien moi, dans ma relation avec Dieu. Le diable est un dévoreur de vie chrétienne, le diable est un dévoreur de foi. Et un retour dans le contexte, ou un retour au contexte, pardon, est intéressant. Nous sommes, pour les chrétiens de l'époque et dans cette région, dans un contexte de persécution. Pas encore une persécution violente, mais une persécution latente, sous forme de moquerie, sous forme de tracasserie administrative, sous forme de mise à l'écart dans la société, sous forme de dénonciation, vous savez, de carrière bloquée, de commerce difficile, car les chrétiens ne pouvaient pas rentrer dans les guildes de commerçants à l'époque. Donc une souffrance au quotidien un peu lancinante, un peu insidieuse, mais qui fatigue à la longue. Et Pierre appelle ces chrétiens à rester vigilants parce que l'adversaire utilise cette souffrance au quotidien pour les amener à renier leur foi chrétienne, qui est toute nouvelle. On parle d'apostasie, de reniement de la foi, ou de retour en arrière. Et à l'époque des camisards, on parle d'abjuration de la foi. Mais on en est vraiment là, et le risque est grand dans un contexte de souffrance de renier la foi parce que c'est trop dur, parce que le doute s'installe, parce qu'il est difficile de faire partie de la minorité, parce que dans ce monde laïque, si on veut réussir, il vaut mieux ne pas faire de vagues. Et quand on est chrétien, on monte dans la barque avec Jésus, et monter dans la barque avec Jésus, ça fait des vagues. Alors je mélange un petit peu les deux époques, mais je le fais exprès. Dans le monde d'alors comme celui d'aujourd'hui, on est en mode survie de la foi. Le diable cherche à dévorer ma vie de foi et la tienne aussi. Et il le fait par le biais de choses un peu inattendues, comme celui de la souffrance, dont on dit qu'elle nous rapproche de Dieu, mais pas toujours. Si on n'est pas vigilant, elle nous éloigne de lui et nous sépare de lui, parce que le diable nous attaque à ce niveau-là. L'adversaire est un fin tacticien, il utilisera nos faiblesses, mais aussi nos forces, pour nous amener à abandonner la partie. Et quand on est chrétien depuis quelques années, On voit autour de soi des amis se faire dévorer par ce lion rugissant, qui ont abandonné la foi, il faut le dire, de façon officielle ou officieuse, qui l'ont abandonné nettement ou progressivement. Alors que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils cédé? Et pourquoi sommes-nous restés? Personne ne le sait. Il n'y a pas là non plus de réponse facile. En tout cas, ce n'est pas parce que nous étions meilleurs qu'eux. Et certainement, il ne faut pas se dire que nous sommes à l'abri. Mais en voyant cela, on se doit de se mettre dans son sac de randonneur une paire de jumelles pour rester vigilant. Que chacun nous puissions dire, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 2:11, nous ne connaissons que trop bien ses intentions, en parlant du diable. On connaît trop bien ce qu'il a l'intention de faire. Et le sachant, on va peut-être prendre ses précautions. Et une des précautions à prendre, c'est certainement la prière. Vous savez, dans le jardin de Gethsémané, il y a Jésus qui dit à ses disciples, soyez vigilants et priez. Vigilance et prière qui vont de pair. La prière comme un moyen de rester vigilant. C'est une question de survie dans la foi. Et puis, troisième élément, dans le sac, dans le kit de survie pour la vie chrétienne, c'est cette couverture de survie. La couverture de survie avec cette couleur improbable là qui, pour le randonneur averti, permet de résister au froid quand il est en rade dans une falaise et qu'il doit rester la nuit. Et qui illustre bien cette troisième attitude de survie dans la vie chrétienne qui est la résistance. Résistez-lui. en demeurant ferme dans la foi. Et la résistance va évidemment de pair avec la vigilance, et elle relève un petit peu de la même attitude à l'égard de l'adversaire. Mais après avoir repéré l'ennemi, connu ses intentions, il faut pouvoir lui résister en face, dans un deuxième temps, faire bloc contre lui, ne pas lui donner, et c'est une expression de la Bible que j'aime bien, accès, ne pas lui donner prise sur nous. Il ne s'agit pas de flirter avec le mal, mais de lui résister de toutes ses forces. Il ne s'agit pas de collaborer avec le diable, mais d'entrer en résistance et de prendre le maquis, comme le pasteur Dietrich Bonhoeffer a appelé l'Église allemande à la résistance contre le nazisme. La Bible nous appelle à la résistance. Et l'histoire de l'Église, les chrétiens protestants l'ont bien reçue et l'ont vécu dans leur corps. Marie Durand, enfermée dans la tour de Constance, pas sur la côte méditerranéenne, pendant toute sa vie prisonnière de Louis XV à cause de sa foi protestante qu'on essaye de lui faire abjurer, écrivait avec ses ongles sur le mur de sa cellule un seul mot, un seul verbe, mais ô combien important, résister. Elle y passait tous les jours pour laisser cette trace dans la pierre et pour se souvenir qu'elle était là pour résister. La vie chrétienne est faite de résistance. Êtes-vous résistant ? Et Pierre, dans son appel, montre bien aussi le lieu de la résistance. Il s'agit de la foi. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Et la foi décrite ici, ce n'est pas la foi dans les doctrines, même si c'est important cette foi-là aussi, mais c'est la foi dans l'attachement au Seigneur. Il s'agit de résister au diable, non pas en devenant des spécialistes de diabologie ou des spécialistes de combat spirituel, mais en restant fermement attaché au Seigneur. Résistez-lui en maintenant une vie qui serait orientée résolument vers lui, non pas comme une girouette qui prend le vent, mais comme une boussole qui est toujours orientée vers le pôle magnétique. Et c'est vrai, c'est une réalité que les vents contraires, les difficultés de la vie, les circonstances difficiles, les souffrances, le travail trop lourd, les soucis trop nombreux, les problèmes à répétition, les problèmes familiaux, conjugaux, sentimentaux, la solitude pesante, les échecs répétés, les tentations trop fréquentes peuvent nous éloigner de Dieu et nous poussent parfois à abandonner la course. Mais si par la foi, nous restons orientés vers lui, si par la foi, nous considérons toutes ces circonstances comme faisant partie de son éducation pour nous, si par la foi, j'oppose à tous ces problèmes les promesses de Dieu à mon égard, si j'oppose à tous ces problèmes et ces soucis la vérité de son amour et sa fidélité éternelle, alors on pourra résister au rugissement paralysant du lion qui rôde autour de nos échecs et de nos faiblesses. Avec la foi, on entre en résistance, non pas comme une sorte de passivité stoïque, où l'on se recroqueville dans sa coquille spirituelle, mais dans un acte conscient et volontaire, où l'on place le Seigneur Tout-Puissant au cœur même du combat. J'ai connu un jeune Congolais qui s'appelait Valentin, un bel homme, un beau garçon, jeune encore, un ancien sportif, joueur de volley. Mais à l'université de Lubumbashi, en mai 1990, les hommes de Mobutu ont tiré dans la foule des étudiants. Et Valentin a reçu une balle dans la moelle épinière. Et Valentin est paraplégique. Et il habite dans un appartement médicalisé à Bruxelles. Et quand je lui rends visite au milieu des années 90, il me dit à chaque fois: Dieu est grand. Et j'ai été tellement encouragé dans ma foi par, alors que j'étais jeune pasteur, par la foi de Valentin. Valentin tenait ferme dans sa foi, Valentin résistait avec sa foi aux attaques de l'ennemi qui cherchait à le pousser à l'abandon et au désespoir. Mais Valentin savait par la foi que sa vie était entre les bonnes mains de Dieu. Et il n'était pas dans le déni non plus. Il ne disait pas « il n'y a pas de mal ». Mobutu et ses sbires étaient coupables de crimes contre l'humanité et les Belges avaient laissé faire. Il ne s'agit pas d'innocenter tout le monde, mais la foi en ce Dieu puissant lui permettait de résister dans son être intérieur, de ne pas sombrer dans l'amertume ou la résignation ou le reniement. Dieu est grand, disait Valentin. Valentin était en mode survie et il était un résistant par la foi. Sommes-nous résistants ? Nous ne sommes pas dans la situation de Valentin, ni exactement dans celle des destinataires de la lettre que Pierre écrit, mais Peut-être que nous aurons des chemins difficiles. Peut-être serons-nous aussi en mode survie d'une manière ou d'une autre. Et je vous invite, pendant cette année et les années qui vont suivre, à penser à ce kit de survie que Pierre nous propose, avec cette confiance que Dieu prend soin de nous et qu'il nous appelle à nous décharger sur lui de tous nos soucis, de cette vigilance par rapport à l'adversaire qui utilise tous les moyens pour nous étouffer et étouffer notre foi et de lui résister dans la foi. Et la salutation finale vaut le détour parce que Pierre nous parle de la grâce avec une expression magnifique, le Dieu de toute grâce, d'une grâce pleine et entière. Et ce détour final par la grâce est essentiel parce que nous pensons peut-être que tout ce qui vient d'être dit est un peu compliqué ou demande des efforts personnels et que ce matériel de survie est un peu lourd dans mon sac à dos. Après tout, je ne suis ni David, ni Marie Durand, ni Valentin, je suis juste moi et moi, ça ne suffit pas. Mais notre Dieu est celui de toute grâce, de tout don que je ne mérite pas, de toute force que je n'ai pas. Dieu nous fera la grâce de développer dans notre vie cette confiance, cette vigilance, cette résistance dont nous avons besoin, non seulement pour survivre, mais on va dire pour vivre tout simplement. Et il termine, Dieu, l'auteur de toute grâce, vous rétablira lui-même, c'est lui qui le fera. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et si c'était lui, Dieu, et lui seul, notre kit de survie. Et le texte termine, à lui la puissance, au siècle des siècles. Amen.